Bonjour, c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 25 du 29 janvier 2016. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Stanislas et Arnaud et on va vraiment coller à l'actualité du jour puisqu'on va vous parler d'Azure Stack dont la première technical preview est annoncée pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, puisque Stanislas et moi, nous vous avons préparé quelques actualités du cloud pour commencer, et puis quelques trucs et outils qui nous ont plu pour terminer l'épisode. Donc bonne écoute et à bientôt! Bonsoir à tous, donc je suis aujourd'hui avec Stanislas. Stanislas, bonjour.
Bonjour Pascal.
On attend Arnaud qui va nous rejoindre incessamment pour nous parler de ces sujets de prédilection. En attendant qu'il arrive, on va commencer avec Stan à évoquer quelques actualités de notre plateforme de cloud. Et puis ensuite, on parlera d'une actualité concernant notre cloud, de technologie de cloud hybride et privée. Puisque aujourd'hui est un jour assez particulier, on a une annonce très particulière dont vous avez certainement entendu parler qui concerne Azure Stack, qui devrait tomber soit pendant qu'on parlera, soit après. Donc on verra un petit peu de quoi on pourra vous parler pendant ce podcast. Et donc tout de suite, en attendant, on va évoquer quelques actualités. Donc notamment, la première info qui nous intéresse, elle concerne Azure Automation. Azure Automation, on connaît, hein, c'est la plateforme qui permet de faire de l'automatisation à l'intérieur d'Azure, c'est-à-dire d'héberger nos scripts d'automatisation dans Azure. Et il y a une technologie qui s'appelle DSC, Desired State Configuration, qui permet de gérer les configurations de nos machines virtuelles, notamment, et de s'assurer que ces configurations ne dérivent pas dans le temps. Desired State Configuration est arrivé dans Azure Automation de façon à fournir DSC en mode pool à l'intérieur d'Azure. C'est-à-dire que vos machines virtuelles vont pouvoir se synchroniser via Azure Automation, donc via ce serveur en mode pool, pour se mettre à jour en fait et se conserver en bonne configuration, se conserver en cohérence par rapport à la configuration désirée. Et donc cette techno-là était disponible en preview depuis quelques mois, maintenant elle est GA, donc Generally Available, et vous pouvez l'utiliser en production.
Eh bien écoute, si on continue sur les petites nouveautés, donc on a déjà depuis un certain temps une technologie qui s'appelle Azure MFA, Multifactor Authentication. Ça permet en fait de faire de l'authentification forte avec l'utilisation d'un smartphone ou d'un téléphone. Donc en gros, on complète l'utilisation login mot de passe avec une information complémentaire, donc soit la saisie d'un code PIN suite à un rappel téléphonique sur un téléphone portable, ou encore la saisie d'un code à usage unique envoyé par SMS au portable, soit via l'utilisation d'une application mobile existante sur toutes les plateformes les plus classiques, Windows Phone, iOS, Android notamment. Donc Azure MFA, c'est pas réellement nouveau, on peut déjà l'acheter quand on a une grosse structure ou une plus petite structure via des contrats de volume en licence ou via des cloud solution providers, donc des revendeurs. Et puis, on peut, en fait, cette fonctionnalité, Azure MFA, elle est présente dans certains bundles. Donc, par exemple, Azure Active Directory Premium, ou EMS, ou dans certaines éditions d'Office 365. Donc, désormais, la nouveauté, en fait, c'est que même si vous n'avez aucun de ces bundles, vous n'avez pas forcément du volume, la licence en volume, vous allez pouvoir acquérir à l'usage par utilisateur en fait cette fonctionnalité d'Azure MFA. Et donc du coup, on va avoir un paiement qui sera un coût en fait par mois en général. Donc ça c'est la première option. Donc pour vous donner l'ordre d'idée, on est sur à peu près un petit peu moins de 1,20€ par mois pour un nombre illimité d'authentification. Donc c'est vraiment super intéressant par utilisateur pour justement apporter cette authentification forte. Je précise par utilisateur, pour les administrateurs de tout ce qui est Azure ou Office, le MFA en fait est intégré nativement et gratuitement en fait pour les administrateurs. Donc on va avoir un modèle comme ça qui sera par mois ou un modèle qui sera annuel et qui aura un prix un petit peu plus faible normalement. Voilà, ça c'était la nouveauté. Pour la... Fonctionnellement, ça n'a pas réellement changé. C'est plus sur la méthode d'achat. Globalement, c'est ouvert à tout le monde pour un prix qui est, je pense, vu le service rendu, relativement modique. Toujours dans les disponibilités, sur la partie stockage, donc on a du stockage traditionnel dans Azure ou le stockage premium qui est basé sur du SSD. Donc ça permet d'avoir jusqu'à des grosses VM allant jusqu'à 80 000 I/O par seconde. Donc en gros, ce service de stockage premium est en train doucement d'être disponible sur l'ensemble des data centers et des régions d'Azure. Là, en gros, ce qui est annoncé, là, c'était l'Amérique du Sud pour ce stockage premium. En Europe, c'est bon, on est déjà couvert, que ce soit sur la partie Dublin ou sur Amsterdam. Dernier point encore assez nouveau sur Azure ce mois-ci, on a eu également un petit changement dans le design de la solution qui s'appelle Azure Site Recovery. Donc il y a une solution qui permet de faire de la réplication de machines virtuelles depuis du data center à destination d'Azure, avec la capacité de réinstancier les machines virtuelles synchronisées dans Azure. Donc je dis machines virtuelles, mais c'est également valable pour les machines physiques. Donc ça veut dire qu'on sait faire du P2V, hein, du physical to virtual, et dans les machines virtuelles qu'on sait synchroniser et répliquer dans Azure, il y a les machines virtuelles bien entendu Hyper-V, mais il y a également les machines virtuelles VMware. Et donc la nouveauté qui a été annoncée, en fait, c'est qu'on a simplifié la façon dont on configurait tout l'environnement de synchronisation pour VMware. Donc tu l'auras compris, hein, sur Azure, on a des hyperviseurs Hyper-V. Quand on avait des machines virtuelles qui tournaient sur VMware, il fallait donc les transformer via ce qu'on appelle du V2V, donc du virtual to virtual. Et en fait, jusqu'ici, pour pouvoir monter en place la solution, il fallait installer deux machines virtuelles particulières dans Azure, ce qu'on appelait le master target et le configuration server. Et puis, on avait également sur site, on-premise, une machine virtuelle également qui s'appelle le process server. Donc ça faisait deux machines virtuelles qui a rajouté un coût supplémentaire dans Azure, qu'il fallait configurer. C'était un petit peu pas compliqué, mais ça nécessitait un certain nombre d'étapes. On a simplifié cette chose-là. Désormais, du côté de Azure, on a rendu entre guillemets invisibles ces différents rôles et ces différentes machines qu'il fallait donc configurer initialement. Donc désormais, en gros, dans la partie Azure, on va avoir ce qu'on appelle le master target qui sera intégré et masqué. Et puis, une des machines, un des rôles qui tournait dans Azure, qui est le deuxième rôle, est retransféré sur site sur une seule machine virtuelle qui aura les deux opérations. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va réduire les coûts de déploiement parce qu'on n'a plus autant de machines virtuelles à tourner dans Azure pour faire du processing pour la fonctionnalité. Et on simplifie également le coût de déploiement parce que du coup, c'est beaucoup plus rapide à déployer et à mettre en œuvre. Voilà, ça c'était une bonne nouvelle pour moi.
La nouvelle suivante concerne Intune. Donc, vous savez que chaque mois, on a une vague de nouveautés dans Microsoft Intune. Dans cette vague de nouveautés du mois de janvier, il y en a une première qui concerne le Health Attestation Service, donc le service d'attestation de santé de Windows 10. Donc, c'est un service qu'on a déjà détaillé dans un épisode précédent du podcast. C'était l'épisode 18 du 25 septembre 2015 avec Arnaud Jumelet. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce service qui permet de contrôler l'état de santé des systèmes Windows 10, vous pouvez vous reporter à cet épisode 18 donc. Donc la nouveauté dans Intune, c'est que Intune va pouvoir faire de l'accès conditionnel vis-à-vis de cet état de santé. Et donc en fonction de l'état de santé des machines, vous aurez accès ou non aux ressources de l'entreprise. D'autres nouveautés qui concernent encore Windows 10, puisqu'on a maintenant dans Intune le support de la configuration de Passport, donc du protocole d'authentification Passport de Windows 10, donc qui permet notamment de s'authentifier avec soit un code PIN, soit des gestes biométriques. Également le support de la configuration des VPN par application, le support du full wipe de Windows 10, donc de l'effacement complet et donc du retour à la configuration d'usine d'un Windows 10 en cas de perte ou de vol d'une machine, par exemple. Le support également des applications iOS, donc des applications Apple qu'on va acheter en volume. Donc c'est le programme qu'on appelle le Apple Volume Purchase Programme. On va pouvoir maintenant synchroniser notamment les licences de ces applications entre Apple et Intune de façon à faire un suivi des licences des applications utilisées par vos utilisateurs. L'utilisation nouvelle également des numéros de IMEI, des téléphones mobiles. Dans les téléphones mobiles, vous avez ce qu'on appelle un numéro d'IMEI, qui est un identifiant unique du téléphone. Et ce numéro, on va pouvoir pré-remplir dans Intune une table des numéros IMEI des téléphones qui appartiennent à l'entreprise. Donc, dans votre gestion de parc de mobile, vous pouvez avoir accès à une liste des IMEI des téléphones qui appartiennent à l'entreprise avant de les déployer. Et quand vous allez déployer ces téléphones auprès des utilisateurs et que chaque utilisateur va s'enregistrer dans Intune, Intune va reconnaître l'IMEI de l'appareil qui vient de s'enregistrer et donc va le flaguer en tant qu'appartenant à l'entreprise. Et donc, dans le cas où vous aurez des politiques différentes pour les appareils qui appartiennent à l'entreprise ou les appareils qui appartiennent aux utilisateurs, en Bring Your Own Device, vous pourrez distinguer les politiques de sécurité qui sont appliquées à ces appareils. Dernière petite chose, de nouvelles applications. Donc, on continue le mouvement initié depuis qu'on fait MAM, du Mobile Application Management. Voilà, je cherchais mes mots. Et cette fois-ci, on a encore rajouté trois nouvelles applications tierces qui vont supporter le MAM. Supporter MAM, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir associer à ces applications dans Intune des politiques applicatives qu'on va définir dans Intune. Donc on va pouvoir maintenant associer ces politiques à trois applications supplémentaires qui sont Box, une version spécifique de Box pour EMM, Adobe Reader également. Donc Box, c'est uniquement sur iOS, Adobe Reader, c'est pour Android. Et puis le troisième, c'est Foxit PDF Reader, donc un lecteur de PDF plutôt pas mal également, alternatif à Adobe Reader. Et lui existe pour iOS et Android. Donc trois applications supplémentaires gérables dans Intune. Donc voilà pour les nouveautés d'Intune du mois de janvier.
Ah ben, Intune, comme Office 365, comme pas mal de services d'Azure, s'appuie sur une colonne vertébrale qui est Azure Active Directory. Et il y a une petite nouveauté qui est apparue il y a quelques semaines, qui est donc la GA, donc la Global Availability, de ce qu'on appelle le RBAC, donc le contrôle d'accès, le Role-Based Access Control. Donc ça permet en gros de faire de la délégation de droits et de gestion sur des ressources dans Azure. Et notamment dans le RBAC, donc il existe toujours un ensemble de rôles administratif pré-créé par défaut. Et la nouveauté, c'est que désormais, en fait, il y a également la possibilité, sans version finale, de faire des rôles personnalisés. Donc, en fait, on crée un petit peu le type de profil d'administrateur avec les permissions associées derrière. Et du coup, on peut en faire pour son organisation et du coup, après, déléguer et appliquer ces rôles, en fait, à des utilisateurs sur soit l'abonnement complet, soit sur des groupes de ressources, soit sur des ressources Azure.
Ça y est, Arnaud nous a rejoint. Salut Arnaud.
Hey, salut Pascal, salut Stanislas.
Ça va bien ?
Tout va très bien.
Bon.
Merci.
Donc, on avait fini de faire le tour de quelques petites actualités de la plateforme cloud. Il est temps de passer au sujet du jour.
Oui, donc aujourd'hui, nous sommes donc le 29 janvier, et normalement, si tout va bien, pendant que nous sommes en train de vous parler, devrait être ouverte officiellement la disponibilité de la Technical Preview 1 d'Azure Pack.
Azure Stack, tu veux dire?
Exactement, Pascal. Il y en a un qui suit.
Magnifique.
J'avais un bel effet, mais ça a été gâché. Par une
un
erreur bel élan,
mais pour prendre les pieds dans le tapis.
Voilà. Donc, effectivement...
Pendant ce temps, on est en train de faire F5 hein, sur le site.
Oui, on est en train de faire F5 sur le site. Donc, Azure Stack, effectivement, est disponible en Technical Preview 1 aujourd'hui. Alors, on est sur donc une première itération de cette solution qui va être une solution dédiée à faire du cloud privé et ou hybride. Je dirais plutôt hybride que privé d'ailleurs, vu l'optique pour laquelle on l'a conçu en fait. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir permettre de reproduire un sous-ensemble des technologies présentes dans notre plateforme de cloud public Azure au sein en fait d'un système d'information sur site dans un data center. Donc l'idée étant en fait d'exposer un certain nombre de services, en fait, d'être capable d'avoir un certain nombre de services qui vont tourner dans le data center, avec derrière une interface d'administration et de consommation très très similaire à celle existante aujourd'hui sur la plateforme publique Azure. Et au-delà en fait de ces interfaces d'administration et de ces interfaces entre guillemets web de consommation, c'est également la possibilité d'offrir en fait l'administration et l'utilisation de ces technologies également avec tout ce qui est package déclaratif de type ARM, Azure Resource Manager, et puis également tout ce qui est commande PowerShell, Azure CLI, etc. Donc, ça veut dire que sur cette plateforme Azure Stack, en fait, on va faire tourner quoi dans un premier temps, on va dire. L'objectif, c'est de faire tourner donc des machines virtuelles. C'est de pouvoir faire tourner des sites web, d'avoir un stockage virtualisé. Et puis, de pouvoir provisionner des services et d'utiliser des modèles et des templates tels qu'ils existent aujourd'hui en fait dans la plateforme publique Azure. Donc depuis quelques mois déjà, on parle beaucoup d'Azure Resource Manager, qui est donc ce qu'on appelle souvent le IaaS V2, et ça permet de déclarer des ressources en fait de manière déclarative dans des fichiers JSON, et le tout permettant en fait d'avoir en fait une certaine idempotence, parce qu'on va réutiliser en fait ces modèles, quel que soit l'endroit où on les positionne. Une des promesses qu'on a annoncées durant la dernière année, on va dire, c'était qu'effectivement, dans Azure Stack, on pourrait utiliser ces modèles ARM qui sont utilisés dans Azure et de pouvoir effectivement déclarer de la même façon les ressources privées. Donc c'est effectivement une chose qu'on va voir dans cette technical preview. Au passage, il existe déjà un GitHub disponible dont tu nous mettras l'adresse dans le post correspondant à ce podcast,
ouais, tout à fait,
Pascal.
Ouais. Ouais.
Et donc ce GitHub en fait contient aujourd'hui une petite liste de modèles ARM déjà préconfigurés et fonctionnant donc avec Azure Stack. Donc jusqu'ici on recherchait effectivement ces modèles Azure dans le moteur de recherche préféré en tapant Azure Quick Start Template, là on tapera Azure Stack Quick Start Template, et du coup on obtient un certain nombre de modèles ARM prêts à être déployés en fait sur cette plateforme Azure Stack. Donc dedans on va retrouver des choses telles que du load balancing, la création de comptes de stockage, la création de règles de sécurité, l'ajout d'extensions Docker à des machines Linux, par exemple, la création d'une machine virtuelle Windows, une machine virtuelle Windows avec des extensions, du SharePoint, la création d'une VM avec du SharePoint 2013 à l'intérieur, une machine SQL 2014 également directement déployable avec ces modèles. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Ça devrait s'enrichir logiquement au fur et à mesure de l'année et des technical previews qui vont arriver. Alors, peut-être la question qu'on va se poser, c'est on a besoin, donc c'est quoi le socle technique de cette solution, hein. Donc la solution va s'appuyer sur la technical preview 4 de Windows Server 2016. Mm-hmm. Donc en gros il y a besoin, alors je précise, dans cette technical preview 1 elle est vraiment faite, c'est la première, elle est vraiment faite pour commencer à évaluer un petit peu la solution, elle est vraiment pas finalisée, et aujourd'hui on va la limiter en usage telle qu'elle est preview. En tout cas elle sera installable que sur une seule machine physique, donc un seul serveur qui hébergera l'ensemble de la solution. Donc c'est vraiment fait pour faire du proof of concept, tester et commencer à jouer avec, mais c'est clairement non finalisé encore, et c'est bien entendu pas l'objectif à la fin d'avoir ce truc là qui tourne sur une seule machine physique, mais bien sur tout un ensemble, tout un vrai cloud privé. Donc cette machine physique, on s'en doute, donc elle aura, donc sur laquelle on va installer un Windows Server 2016 Technical Preview 4 dessus, elle a certains prérequis matériels. Les prérequis sont pas tout à fait neutre quand même. Alors je précise, il faut que ce soit une clean install de cette édition Windows Server 2016 TP4. Et puis elle a quelques prérequis, on va dire, matériels, cette machine, qui ont été annoncés publiquement dans un post-blog, là encore, que tu mettras le lien dans le podcast. Donc, ce qui est annoncé, c'est qu'il faut à minima une machine avec un 12 processeurs, enfin, dual socket avec 12 cores physiques. Donc, c'est déjà pas mal. Il faut 96 gigas de RAM pour cette machine.
Minimum, mais on recommande, je crois, 128. Hein.
Exactement. Alors, on m'aurait dit, des personnes auraient dit qui auraient eu la chance de tester cette Azure Stack en version préliminaire privée, m'ont dit qu'elles avaient été capables de le faire tourner avec 32 gigas de mémoire. Mmh. Honnêtement, vu ce qui va tourner derrière, j'ai mes quelques doutes. On essaiera de faire des tests, nous, de notre côté, avec des machines avec peut-être 64 gigas de mémoire pour voir si ça passe. Si ces prérequis ont été donnés, c'est pour une raison aussi, c'est que si c'est pour avoir une machine qui est une infrastructure qui est tellement lente que c'est pas utilisable, du coup, on démontre pas grand-chose. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont imposé ils ont demandé 96 gigas de RAM. On verra si c'est une limitation qui est hardcodée ou si c'est juste un bon conseil qui est mis dans la documentation. De la même façon, aujourd'hui, cette machine qui va faire tourner la configuration Azure Stack, on ne va utiliser qu'une seule carte réseau dessus, carte réseau qui doit être certifiée, donc c'est pas avec des drivers bricolés qu'on va le faire fonctionner, donc certifié driver certifié 2012 R2, d'accord. Minimum de 100 gigas de disque dur pour la partition système, donc le disque où il y aura le Windows Server 2016. Ça peut être du SSD ou du disque dur. Je pense à pas. Aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir 200 gigas de SSD. C'est pas ça la difficulté. Et puis, pour la partie, tout ce qui est data, disque dur virtuel des différentes machines de l'infrastructure, il est recommandé 4 disques durs avec une minimum de capacité par disque dur de 140 gigas. Donc 140, 280, 500, donc à peu près 500, 600 gigas de disque dur. Pourquoi plusieurs disques durs? Simplement en fait parce qu'on va utiliser des technologies de type storage space, etc., pour des raisons de performance également.
Donc on n'a pas encore testé du tout et on n'a pas encore eu l'occasion de tester tout ça, mais j'imagine que si on a que 64 gigas et qu'on arrive à installer tout ça et qu'on peut compenser peut-être cette perte de performance avec moins de mémoire par du SSD assez rapide au niveau du disque.
Oui, le SSD ne fera pas tout parce qu'en fait on a besoin de beaucoup de mémoire parce que l'installation de l'Azure Stack va correspondre derrière à l'installation d'un certain nombre de machines virtuelles.
Oui.
D'accord. Donc il y a des machines virtuelles qui ont différents rôles, il va y avoir de la machine virtuelle Active Directory, DNS, DHCP, de la machine virtuelle pour la partie réseau avec le Network Controller. Il y aura également des machines virtuelles qui vont intégrer des rôles d'administration, les machines virtuelles qui vont héberger les portails pour le tenant d'admin ou les tenants locataires. Donc tu comprends qu'effectivement, même si effectivement, on doit pouvoir peut-être mettre un petit peu moins de mémoire, si ce dimensionnement était donné, je pense que c'est pas pour nous embêter, c'est simplement parce que dans leur test et en utilisation un petit peu poussée, effectivement, il va falloir un petit peu de mémoire. D'accord ?
Écoute, on va tester l'ensemble ça dès des disques possible.
Durs qui, ouais, l'ensemble Pardon. Des disques durs devront être de même type, hein, donc soit des disques de type SAS, soit des disques de type SATA, et les disques doivent également avoir la même capacité. D'accord ? Donc je pense qu'il y a tel que ça a été conçu, entre guillemets, il ne va pas falloir commencer à mixer plein de tailles de disques différents et de types. Ce ne sera peut-être pas une bonne idée. On est sur une technical preview, donc ça a été testé dans un périmètre limité de configuration matérielle. Et je pense que commencer à rendre le tout encore plus hétérogène fait que ça risque peut-être de planter. Mais ça, je pense qu'on en reparlera quand on aura fait nos propres tests. Et donc prochainement dans un nouveau podcast, on vous donnera notre retour d'expérience sur l'installation de cette fameuse technical preview 1 d'Azure Stack. Voilà. On peut avoir des contrôleurs RAID également. Attention, les contrôleurs RAID doivent être configurés en mode passe-flou. On supporte pas également tout ce qui est MPIO, donc si vous avez du matériel avec plusieurs chemins pour l'accès à votre stockage, ça n'a pas été prévu dans cette installation. Voilà. On peut supporter par contre des combinaisons de disques rotatifs et de disques SSD. Ça a été prévu. Donc en gros, la machine physique, quand vous allez télécharger l'ensemble de votre de ce qui sera mis à disposition, on installera dans un premier temps Windows Server 2016 dans sa Technical Preview. Donc on sera en version américaine, bien entendu. Hein, on ne s'amuse pas à jouer avec des versions qui ne soient pas américaines. simplement parce que ça n'a pas été testé autrement. Et puis on exécutera en fait les packages qu'on aura téléchargés d'Azure Stack, qui sont basiquement des grosses archives qui vont ensuite se décompacter et donc sortir un petit peu tous les disques durs qu'il y a derrière. Donc il y a plusieurs disques durs de machines pour des machines virtuelles qui sont décompactées. Donc il y en a pour du Windows Server 2016, il y a du 2012 R2 et il doit y avoir du SQL 2014 à ma connaissance derrière. Ensuite, on n'a plus qu'à lancer le déploiement une fois que tout est décompacté. Il y aura une ligne de commande PowerShell à exécuter. Et à partir de là, le script PowerShell va se dérouler. Et puis, vous demandez différentes informations. Donc, des comptes d'administration. Il y aura normalement la demande d'un compte Azure Active Directory. Donc, il faut avoir un tenant à Azure Active Directory et être global admin. Et en fait, c'est là finalement où on est vraiment dans du cloud hybride parce que le contrôle et les permissions qui seront données dans Azure Stack seront basées sur la technologie de Airbac dont on en a parlé tout à l'heure. Et donc, on va utiliser ces technologies également, même si on est sur une infrastructure privée. Voilà. Il y a quelques petits correctifs à installer. Ce sera documenté de toute façon. Et puis après, il suffira de suivre. Il y a une documentation, un guide d'évaluation en fait, qui va être mis à disposition et qui contiendra en fait tous les détails à suivre en pas à pas pour installer l'ensemble. Ça a été assez bien scripté. Je pense que la difficulté, c'est principalement d'éviter de tomber dans l'écueil d'avoir une machine un petit peu particulière, un petit peu hors standard, tel que ce qui a pu être déjà testé avec cette technical preview. À partir de là, après, on aura, une fois que ce sera installé, on aura accès à deux portails d'administration. Le premier qui sera vraiment le portail de l'administrateur du service, donc on va dire l'administrateur du cloud. Et c'est là-dessus qu'il y aura la définition de différentes choses, ce qu'on appelle les offres, les plans. En gros, l'administrateur va définir quels sont les types de ressources qui sont déployables. Donc, les types de ressources, on appelle ça des services, et puis on va les regrouper, on va faire des ensembles de services, et puis après, au-dessus de tout ça, on va faire des offres qui seront en fait constituées de plusieurs groupes de services. Donc l'idée derrière, c'est que, par exemple, quand tu vas vouloir déployer des modèles de machines virtuelles dans ton cloud privé, que tu te retrouves en tant que consommateur du cloud avec la même interface ou la même expérience que ce que tu as dans le portail public d'Azure. Tu sais que dans Azure, quand tu choisis une machine virtuelle avec le nouveau portail, on te fait apparaître à un moment les catégories en te disant il y a les catégories A, hein, les catégories D, puis tu as le petit descriptif
tout à fait.
De chacune des machines virtuelles. L'idée avec la définition de tous ces plans et différents services, c'est d'arriver à la même chose en fait. Mais à l'échelle, par contre, bien entendu, de cloud privé. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment cette expérience qui soit vraiment, consistante, cohérente entre les mondes publics et le monde privé. Et puis, on va pouvoir tester de l'ARM avec cette technical preview. Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure avec ce fameux GitHub qui contient déjà des exemples. Donc là, la syntaxe sera très 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 similaire effectivement à ce qu'on fait dans Azure, pour ne pas dire identique. Et donc dans cet Azure Stack, on va avoir plusieurs ressources providers. Les trois principaux qu'on va déjà voir, tu t'en doutes, sont trois providers d'infrastructures. Donc on va avoir un ressource provider pour le réseau, un pour le compute, les machines virtuelles, et un pour le stockage. Le compute resource provider va permettre de créer les machines virtuelles. Il permettra également de rajouter des extensions. Tu sais, les extensions, on les connaît assez bien dans le monde d'Azure. Donc là, on aura des extensions, on va dire, je pense, dans un premier temps minimum pour les machines Windows et les machines Linux.
Oui, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de modèles sur le GitHub qui permettaient d'installer des extensions Docker sur Linux.
Oui, c'était un exactement. Exemple, ouais. Donc ça a déjà été prévu, donc ça veut dire quoi, tu vois, on pense déjà au fait d'avoir dans Azure Stack le support également des containers Docker.
Ben oui.
Ce qui est assez naturel, vu que dans Windows Server 2016, on va avoir des technologies de containers pilotables également via les API de Docker. Et puis dans les autres source providers, au niveau du réseau, On va avoir finalement les différentes briques d'un SDN. Alors peut-être dans un premier temps sur cette technical preview, on va pas tout avoir, sans doute. Hein. Donc le network resource provider va fournir des éléments de SDN et puis également des network function virtualization, des NFV. Ça, Arnaud devrait en parler tout à l'heure parce que c'est vraiment de la terminologie de monde du SDN. Donc je pense qu'il ouvrira un petit peu le scope au-delà de Azure Stack, mais c'est des choses connues.
Si on arrive à récupérer Arnaud, parce que je crois qu'il a des problèmes d'internet là où il est.
Ah, et la fracture numérique frappe la France.
C'est magique, il est revenu.
Exactement. Et donc, en fait, ces fameux composants pour le réseau, là encore, ils seront complètement pilotables. Donc, on devrait avoir, je pense, le Software Load Balancing, logiquement, parce qu'il est dans Windows Server aujourd'hui, plus de trois petites choses qu'on discutera plus, je pense, dans un autre podcast. Mais du coup, on va pouvoir utiliser ces providers réseau pour faire à la fois utiliser les fonctions de network virtualisées, mais également des choses qui sont des objets connus aujourd'hui dans le monde Azure, tels que le public IP, par exemple, ou les NSG, qui sont les Network Security Group, ou la création de Virtual Network et de Subnet, etc. etc. Donc là, vraiment, on est vraiment sur un vrai parallèle et un vrai pendant, entre guillemets, à ce qui existe dans Azure Stack, au moins dans cette première, en tout cas, technical preview. Et sur la partie stockage, alors ça c'est peut-être la chose qui m'interpelle le plus, c'est qu'on va avec ce resource provider de stockage, on va pouvoir définir dans ce cloud Azure Stack des services de type blob, de type table, et puis des gestions de comptes. Et donc là c'est assez intéressant parce que on va recréer en fait ce qu'on a sur Azure, mais dans Azure Stack. Quand on va créer des machines virtuelles, elles seront stockées non pas sur un file system classique tel qu'on le connaît jusqu'ici avec des solutions de cloud privé avec System Center ou autre. Là, on va vraiment stocker les disques durs des machines virtuelles du cloud, des tenants, dans des blob pages, exactement comme dans Azure.
Oui, de façon également à pouvoir réutiliser nos modèles de déploiement, quel que soit l'environnement, de toute façon. Oui.
Et c'est ça en fait. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on est en train d'amener la technologie d'Azure dans l'infrastructure privée avec Azure Stack, quoi. Voilà. Au niveau des rôles, donc on va utiliser du RBAC pour le contrôle effectivement de qui a le droit.
Contrôle d'accès, oui.
Contrôle d'accès, permissions et privilèges sur l'ensemble de l'abonnement ou un ressource groupe ou une ressource individuelle. Donc ça, c'est exactement la même façon. Dans Azure Stack, donc là ça va de la même façon en fait, on va attribuer ça à des utilisateurs, à des groupes ou des comptes de service pour les ressources Azure Stack.
Et a priori vis-à-vis des mêmes groupes et utilisateurs qu'on va utiliser dans Azure, puisque tu l'as dit tout à l'heure, hein, on est basé sur une sécurité qui va utiliser Azure Active Directory comme annuaire.
Exactement. Et donc dans les rôles d'admin qu'on devrait avoir avec cette technical preview. On devrait avoir, pour l'instant, pas beaucoup de rôles très différents. Le propriétaire, le contributeur, le lecteur. Mais je pense qu'on va pouvoir, probablement dans les versions ultérieures, agrandir et faire vraiment le pendant du RBAC qu'on a dans Azure Stack. Voilà. Donc, les prérequis, je les ai donnés. Ah oui, sur les cartes réseau, petit point, sur la carte réseau, pardon, la seule carte réseau qu'il y a sur la machine, c'est une carte réseau qui ne doit pas être en teaming. Je pense que voilà, ils ont fait simple dans un premier temps. Cette machine va vraiment créer une sorte d'environnement isolé en fait, hein, d'après ce que j'ai vu, avec du NAT derrière, et puis vraiment retenir que c'est fait pour faire un premier essai d'Azure Stack. On est loin d'un produit finalisé ou capable de supporter de la production, mais ça permettra effectivement de valider les premiers points effectivement qui sont le parallèle entre ce qu'on a dans Azure et ce qu'on aura dans le futur. Voilà.
Une dimension intéressante à tout ça, c'est qu'on voit bien qu'on a d'un côté Windows Server et System Center, toujours en version 2016, qui vont nous permettre de faire du cloud privé d'une certaine manière, en mode un peu do-it-yourself. C'est toi qui le fais par rapport à ta configuration matérielle, à tes spécificités bien existantes. Et puis, tu as Azure Stack qui va te permettre de faire vraiment sous forme d'un produit, d'un SKU complètement différent, la promesse du cloud privé assez simplement. C'est aussi une des promesses, cette simplicité, en tout cas ce mode tout intégré pour le setup de l'environnement.
Exactement. Effectivement, dans les machines virtuelles qui sont installées, que je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas parlé de System Center parce que normalement il n'y en a pas. Voilà. Donc on est vraiment sur deux approches. Hein. Là, on est sur une solution qui est pour l'instant toute packagée, qui va venir installer des rôles et qui va s'interconnecter naturellement avec une chose existante qui s'appelle Azure, parce que c'est les mêmes mécanismes. Et dedans, effectivement, on retrouve cette philosophie qui est assez différente en fait de la philosophie qu'on peut avoir dans System Center avec les différents composants.
L'objectif, c'est de faire que le cloud privé soit simple à déployer, parce que si on regarde sur les dernières années avec un petit peu de retour, un petit peu de hauteur, en fait, pas mal d'expériences de cloud privé, que ce soit dans le monde Microsoft ou dans les autres mondes à côté, en fait, ça s'est révélé très très consommateur en ressources, très très consommateur en ressources, je veux dire en ressources humaines, hein, pour déployer la chose, pour réaliser la promesse du cloud privé, entre guillemets. Les entreprises se sont rendues compte qu'il fallait dépenser des efforts, certes techniques, mais aussi organisationnels, qui parfois étaient tellement gros que l'équilibre financier à la fin n'était pas garanti entre les économies que j'allais faire grâce à un cloud et l'argent que j'ai dépensé de l'autre côté. Donc cet équilibre étant pas évident, un des objectifs d'Azure Stack, c'est d'offrir cette expérience de setup intégré et facile pour finalement faire que ce soit très très simple et rentable de faire un cloud privé, de réaliser facilement cette promesse, quoi.
Ouais, alors bon, faut quand même espérer que là on est sur une technical preview où ils ont un peu packagé la sauce sur une seule machine. Effectivement, je pense dans l'objectif quand même final, c'est de, comme tu le dis, de faire quelque chose de plus simple à mettre en œuvre. Ça veut pas dire par contre qu'on s'appuie pas sur des technos tels qu'on les a présentés depuis des années ou qui ont évolué dans Windows Server 2016. Par exemple, là, si je t'ai parlé tout à l'heure de services de blob pour le stockage en fait des disques durs des machines virtuelles, mais en fait sous les services de blob, il y a quand même une infrastructure de stockage. Les infrastructures de stockage vont s'appuyer sur des mécanismes qu'on connaît depuis déjà quelques années, du scale-out file server. On va utiliser tout ce qui est nouveau système de fichiers type ReFS pour avoir des choses encore plus stables. Et puis, quand on descend plus bas jusqu'au disque dur, on va arriver jusqu'à du storage Space Direct. Et du coup, là, tu me dis, storage Space Direct, ça veut dire effectivement qu'on en a on va avoir des environnements où effectivement la montée en charge sera plus simple parce qu'on rajoutera simplement des machines physiques et pas forcément des machines plus des attachements à des B derrière ou à des SAN qui sont en arrière-plan, quoi. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est effectivement, je pense, au final, là par contre je fais un peu une projection, hein, je m'engage pas à 100%, mais je pense que le final tel que la solution est en train d'être designée, hein, c'est vraiment après de pouvoir faire monter également la capacité de son cloud par ajout de briques en fait, relativement simple, en étant plus ou moins convergé, quoi.
Ça paraît assez naturel si on regarde ce qui est en train de se passer sur le marché à l'heure actuelle, effectivement.
Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on peut dire aujourd'hui sur Azure Stack, puisque cette fameuse TP1 n'est pas encore dispo, elle le sera ce soir. On peut dire également que le 3 février, Marc Russinovich et Jeffrey Snover nous font un petit webcast en direct avec une démonstration du produit.
Exactement, donc c'est là où vous verrez ces fameux portails d'administration et les portails de consommation qui sont très 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 très, très similaires au nouveau portail d'Azure.
Regardez ce webcast et on en saura beaucoup plus. Et puis on vous mettra sur l'article accompagnant l'épisode tous les pointeurs qu'on aura ce soir. Arnaud, étant donné que l'heure a bien tourné avec ce sujet fort intéressant, je te propose de parler de SDN comme on avait prévu au départ une autre fois, pour ne pas qu'on fasse un épisode de 1h30 aujourd'hui.
Avec plaisir, ça me va bien, comme ça je vais en week-end plus tôt.
Exactement, et puis ça sera l'occasion d'en reparler beaucoup plus longuement et de façon plus intéressante une autre fois. Et puis on va terminer avec quelques petites infos grappillées par-ci par-là ce mois-ci. Je vais commencer avec des choses qui m'intéressent particulièrement, qui concernent PowerShell. On a annoncé récemment là le support de PowerShell dans Visual Studio Code. Donc c'est une extension de Visual Studio Code. Je ne sais pas si vous connaissez Stan et Arnaud Visual Studio Code. Vous l'avez déjà utilisé, Code ?
Non, c'est pas assez cher. Donc
j'ai pas de Mac, moi, Pascal.
Et ouais. Ça tourne aussi sur Windows, Arnaud. C'est gratuit.
Sur Linux également. Je crois que ça tourne sous Linux.
Alors, c'est vrai qu'en tant qu'IT, on n'a pas ce réflexe-là, mais Visual Studio Code, malgré son nom, c'est juste un éditeur de code, en fait.
Alors, c'est vrai. J'ai Visual Studio Community qui est également gratuit, hein, Et donc, du coup, c'est un petit peu gros comme éditeur de code, mais quand je fais de l'ARM, j'ai Visual Studio. Donc, sauf si on peut faire des templates ARM simplement, comme dans Visual Studio et Visual Code.
Il n'y a pas le support de... Il n'y a pas ce support là. Il y a la syntaxe JSON, mais il n'y a pas le... Il n'y a pas le support de ce qu'on a dans Visual Studio. Mais bon, moi, à mon petit niveau, c'est vrai que je viens de découvrir Code. Et c'est pas mal du tout. Avec cette extension, on peut faire du PowerShell. On a le support complet de PowerShell au même niveau qu'on a le support de l'édition de code de type C-Sharp ou ce genre de choses-là, quoi. Donc, super intéressant.
Alors, à quel point c'est mieux que l'ISE intégré
Alors, c'est différent. ISE, c'est plus pour tester des choses en direct en même temps qu'on développe des scripts, alors que là, on est plus dans un éditeur de code pur jus, quoi, pur et dur, pour vraiment éditer des scripts imposants, quoi. Alors, ça, c'est une première chose. Deuxième petite chose concernant PowerShell, c'est justement à propos de l'ISE. Donc, l'ISE, on le connaît, il est livré à chaque nouvelle version de PowerShell, et puis, il ne bouge plus jamais. Donc là, ils se sont dit, bah, tiens, on a pas mal de demandes de la communauté via les user voice, tout ça, qui nous demandent des améliorations de ISE. Si on décorrélait la sortie de ISE des évolutions de PowerShell telles qu'on les connaît, avec les grandes versions, version 4, 5, etc. Et donc, il y a eu cette semaine donc, une preview d'une nouvelle version de PowerShell ISE, telle qu'il va être mise à disposition bientôt quand il sortira de façon indépendante de PowerShell. Donc il s'installe très simplement avec PowerShell Get en fait. Pour l'instant, c'est juste une preview du PowerShell ISE nouvelle mouture, donc sans vraiment aucune amélioration par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, si on va sur le User Voice, on va pouvoir voter sur les demandes qui ont été faites par la communauté pour donner des points et pour donner des priorités aux améliorations. Par exemple, dans les premières améliorations que j'ai regardées tout à l'heure, là, il y a par exemple quand tu es en train d'éditer un fichier dans ISE et que le fichier est modifié de l'extérieur par quelqu'un d'autre ou un autre process, on n'est pas notifié dans l'ISE, alors que c'est une fonctionnalité qu'on a généralement dans la plupart des éditeurs, de code notamment, prévenu que le fichier a été modifié. Donc voilà, une modif qui va être sans doute en priorité, hein, quoi. Une autre, c'est justement la prise en compte de la syntaxe des fichiers JSON, pour justement pouvoir éditer nos modèles ARM directement dans l'ISE PowerShell. Azure Storage Explorer, on en a déjà parlé, c'est un petit outil vraiment sympa, graphique, pour gérer nos stockages, nos comptes de stockage dans Azure, qui a existé sur Windows et sur Mac. Il y a une nouvelle version maintenant qui existe également sous Linux. Donc si vous avez des stations graphiques Linux, de l'Ubuntu notamment, hein, je crois que c'est uniquement pour de l'Ubuntu. Il existe également pour Ubuntu. Dans Office sur Mac, Office Online, etc., on a la possibilité, déjà aujourd'hui, d'accéder à des fichiers qui sont stockés sur Dropbox. On a d'autres partenaires qui font des solutions de stockage, comme par exemple Box, Citrix ShareFile, Ignite, que je ne connaissais pas, mais qui est un partenaire également, et puis un autre qui s'appelle Edmodo. Donc tous ces partenaires-là on travaille avec Microsoft pour s'intégrer avec nos solutions, et on travaille avec eux également. Et le résultat de ce travail commun aujourd'hui, c'est qu'on a différents scénarios qui sont possibles aujourd'hui et qui sont nouveaux. Par exemple, depuis Office Online, donc imaginez Word, Excel, version web, version online, on peut collaborer à plusieurs sur des documents qui sont stockés sur Box, sur Citrix, ShareFile, ou Dropbox ou Ignite. Donc sur ces quatre stockages, en plus évidemment de OneDrive natif, en même temps. Et quand on dit collaborer en même temps, ça veut dire que si on est deux à modifier le même fichier, on peut voir en temps réel les modifications de l'autre collaborateur. Sur Office sur iOS, en plus de Dropbox, maintenant on a le support de Box, et puis bientôt Citrix, Edmodo et Ignite. Et puis sur Outlook.com, en plus de OneDrive qu'on avait évidemment jusqu'à maintenant, on va avoir Box, Dropbox, comme stockage de pièces jointes. Donc l'idée, c'est ce qu'on pourra directement, nativement, envoyer des pièces jointes via des liens vers ces stockages tiers, Box et Dropbox.
Et si ça, c'est pas de l'ouverture, hein, ma parole.
Et enfin, Stan, tu avais un truc que tu as trouvé aujourd'hui qui était super intéressant. Ouais.
Ah, j'ai trouvé un truc assez rigolo, hein, qui est un petit plugin en fait qu'on rajoute à PowerPoint. Alors, c'est un petit plugin qui a été, euh, qui a été conçu par dans le cadre d'un projet Microsoft Garage. Donc, bon, vous l'avez déjà entendu maintes fois, hein. La société change, on fait du growth mindset, du hack machin. Et donc, dans le cadre de projets internes favorisant la créativité, donc il y a, une sorte d'équipe qui s'appelle Garage. Je pense en référence, à mon avis, au garage des startups, dans lequel, en fait, eh ben, il y a des petits projets qui sont montés et qui, des fois, aboutissent à créer en fait, des, bah, soit des applications sur mobile. Donc, on en voit beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup sur iOS et il y en a beaucoup sur, sur Android également, d'applications qui proviennent de, à l'origine de projets de Microsoft Garage. Mmh. Et donc là, il y en a un qui s'appelle donc, Social Share, qui vient de sortir, hein, qui est donc, comme je l'ai dit, un petit plugin qu'on vient mettre dans, dans PowerPoint. Et ce plugin, il permet quoi, en fait ? Eh ben, c'est tout bête. Il vous permet de prendre, de partager du contenu ou des slides de PowerPoint directement sur vos réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est Facebook et Twitter. Il y en aura peut-être d'autres, d'autres par la suite. Et donc, l'idée, tu peux prendre, donc, tu installes le petit plugin et puis, donc, il apparaît dans, dans ton interface d'Office. Et donc, directement depuis Office, tu peux dire, bah, par exemple, je vais prendre cette slide et cette slide, partage-la moi sur Twitter ou partage-la moi sur Facebook. Et donc, ça, ça fait l'image de la slide et ça la met, ça la poste sur Twitter ou sur, sur Facebook. Tu peux également, tu as une petite fonction de, hein, qui te permet de sélectionner juste une zone de ton PowerPoint et de la transformer en image pour la publier sur, sur Facebook ou sur Twitter. Je crois qu'il y a OneDrive aussi qui est prévu. Je ne sais pas s'il a été fait. Je ne l'ai pas testé avec OneDrive. J'ai testé pour l'instant avec Facebook et avec Twitter. Et puis, tu as la possibilité, quand tu fais ton, ton post sur Facebook ou sur Twitter également, de mettre un lien vers ta présentation. Dans ce cas, tu vas stocker ta présentation sur, sur un compte OneDrive. Et donc, automatiquement, en fait, tu peux partager de manière presque instantanée, sans avoir à jongler entre plusieurs outils, tes présentations ou ton contenu avec des gens bah, sur Twitter ou sur Facebook. Je ne sais pas si je vous ai donné envie, mais moi ce matin, j'avoue que j'ai trouvé l'outil assez simple, assez léger. Pour moi, un outil qui ne plante pas quand la première fois tu lances l'assistant et qui en deux temps fonctionne, j'aime assez en fait. J'aime assez. Et ça permet effectivement, moi, jusqu'ici, quand des fois, quand je mets des photos sur Facebook, ben, j'ai un truc qui m'intéresse dans un PowerPoint, je prenais l'outil Snagit. De Windows, je faisais j'entourais, je sauvegardais le tout dans une image, je la mettais sur mon bureau, et puis après j'allais dans l'interface de Facebook, je faisais ajouter une image, j'allais chercher l'image, etc. Là, pour faire la même opération, bah du coup c'est beaucoup plus court. Voilà.
Le snipping tool, hein, c'est ça?
Le Snagit, c'est une marque de TechSmith, hein, qui est un autre outil.
Mais autant pour moi, qui fait pas la même chose, mais effectivement dans Windows, vous tapez snipping tools.
Snipping tool. Et d'ailleurs également avec OneNote, il me semble.
C'est possible. Donc voilà, l'idée c'est de... Bon, un petit peu de pub pour ce... Pour TechSmith ne fait pas de mal, hein. Ils ont un très bon outil qui s'appelle Camtasia également.
Ben oui, tout à fait.
Dont on a acheté la licence.
L'outil dont tu parles s'appelle donc Social Share, c'est ça, hein?
Ouais, Office Social Share.
Social Share, c'est compliqué à dire.
Ouais, c'est pas facile à dire, hein.
Ouais, ils sont pas chez les fausses. Ils sont pas chez Choche.
Encore une marque.
Voilà. Comme quoi, c'est vraiment l'heure du week-end.
Exactement. Je crois que c'est l'heure du week-end.
Donc là, c'est de dire ils sont pas chez Social Share. C'est pas facile à dire non plus. Hein.
Vous savez que je vais pas couper là. Je vais le laisser tout ça.
Oui, oui. Bah, c'est vendredi, c'est permis. Voilà.
Eh ben merci. Merci Arnaud de tous tes efforts pour te connecter malgré la distance.
Avec plaisir.
Et malgré la fracture numérique. On se retrouve une fois prochaine pour parler de réseau.
Cool.
Et puis je vous souhaite un bon week-end à tous les deux, un bon week-end à tous, et puis à très bientôt.
À bientôt Pascal.
Merci, au revoir.